Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Laissons.
Nicolas Jamain.
Io ho detto, già parlato già una settimana con le persone della Fiorentina.
J'ai un peu chahuté, où j'ai fait tomber une personne et à partir d'un moment où c'est fait mal au son coude.
Ribéry, schönes Tor! Ein Zaubertor! Vom im Moment wahrscheinlich spektakulärsten.
Bien sûr que c'est exposé. Comme j'ai dit, on est en train de souffrir. On est en train de souffrir. Et il n'y a pas que nous. C'est la France qui est en train de souffrir. C'est notre pays. J'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous parce que ça, on en a besoin.
Voilà Paul Vexio, manette pour cette production Ribéry. Alors oui, effectivement, on a exhumé des déclarations de Ribéry qui nous ont fait un peu rire. D'ailleurs, Fred, tu voulais en parler rapidement. Il y a effectivement eu une forme de mépris
de classe.
Alors, parfois avec Ribéry en France, ouais, notamment.
Salut Willy, c'est Fred Hermel. J'avais une question.
Willy Sagnol est avec nous.
J'avais une question à te poser par rapport à ça, parce que moi j'ai toujours trouvé ça honteux, la manière, et je le dis en tant que ch'ti, parce que je sais qu'il y a souvent de la moquerie permise quand il s'agit de ch'ti, la manière de parler de Franck Ribéry, vous savez, il y a plein de gens de ma famille qui parlent comme ça, hein, donc on parle comme ça chez nous. Je voulais savoir comment lui vivait ça, parce qu'il était moqué d'une manière, mais je pense qu'aucun joueur français n'a été autant méprisé, autant moqué que Franck Ribéry. Donc je voulais savoir, Willy, toi qui l'as bien beaucoup fréquenté, est-ce qu'il t'en parlait? Est-ce qu'il en souffrait de ça?
Bah, on n'a jamais trop évoqué ce genre de sujet. Tu sais, après, ça touche à l'intime. Les joueurs de foot, on est tous très potes, on est tous très très proches. Mais quand ça touche à l'intime, c'est un joueur de foot, il s'éponge pas trop. Hein. On lui apprend dès son plus jeune âge à pas montrer qu'il a mal, pas montrer qu'il est triste, pas montrer qu'il est content, pas montrer ci, pas montrer ça. Donc, mais je suis sûr qu'il était touché, bien évidemment. Il faut le dire honnêtement, il y a eu un vrai délit de sale gueule, ouais, en France par rapport à Franck, et c'est inadmissible. Avec le temps, quand tu regardes en arrière tout ce qu'il a dû subir, alors forcément il a fait des conneries lui aussi, mais tout le monde en fait des conneries, on n'est pas des saints. Hein. Mais il y a eu un vrai délit de sale gueule, et c'est, enfin, pour moi qui étais son coéquipier, même pour moi parfois c'est difficile difficile à entendre certaines choses parce que c'est, en plus, quand tu le connais, partout où il est passé, il n'y a pas grand monde pour dire que Franck, c'était pas un mec bien. Hein.
Franck Ribéry donc a mis un terme ce week-end à sa carrière, miné par les blessures à 39 ans et demi. Il aura fini à la Salernitana en Serie A. Polo, je rappelle son bilan, il est quand même dingue. C'est toi surtout qu'il a connu en Bundesliga. Il y a 9 titres en Bundesliga, 6 coupes d'Allemagne. Il y a aussi une coupe de Turquie avec Galatasaray. Il y a aussi une Ligue des Champions en 2013, bien sûr, avec le Bayern, une Super Coupe d'Europe, 81 sélections en équipe de France. Comment on a rendu hommage à Ribéry ce week-end en Allemagne, Polo?
On sait qu'il a un poste qu'il attend au Bayern Munich lorsqu'il décidera de revenir un jour au Bayern Munich. Il était considéré un petit peu comme un enfant d'Oulionès, mais la vie de Franck Ribéry en Allemagne, on n'a pas tant parlé que ça dans les médias. Évidemment, on a rappelé sa carrière tout simplement parce qu'on avait quand même le match entre Dortmund et le Bayern et qu'on a beaucoup parlé de cette rencontre. Mais si tu veux, c'est spécial Franck Ribéry en Allemagne parce qu'il y a déjà, il y a plusieurs périodes au Bayern. Lorsque Willy était encore là, c'était pas forcément l'amour fou entre Franz Beckenbauer et Franck Ribéry. On parlait de délit de sale gueule, etc. Beckenbauer avait rappelé quand même que c'était un Français qui se faisait de la pub sur le dos du Bayern et qu'il avait rien à faire là, que c'était un mercenaire. Rappelons aussi qu'il a voulu forcer plus ou moins son transfert au Real Madrid et que l'image de Franck Ribéry a complètement changé lorsqu'il y a eu l'affaire Zaya qui a explosé en 2010, et c'est le Bayern qui a sauvé Franck Ribéry parce que dans le conseil de surveillance du Bayern Munich, il y a quelqu'un qui s'appelle Marc Wurt à l'époque, qui a disparu maintenant et qui était membre du groupe média Bourg Bourda. Et le groupe média Bourda détenait notamment l'associé, le magazine Bunte, qui détenait les photos de l'affaire Zaïa. Donc tout ça a été orchestré. Et ensuite, en gros, on a fait comprendre à Franck Libéry qu'il devait se taire un petit peu et arrêter ses frasques, etc. Et il a rendu, et c'est là où je suis d'accord avec Willy, il a rendu au centuple ce que le Bayern a fait pour lui. C'est-à-dire, c'est une légende aujourd'hui, c'est une icône au Bayern Munich, parce que il a, et là on peut parler de David Salgueul à l'inverse, c'est que justement l'intelligence des Bavarois, ça a été de comprendre assez rapidement que Franck Ribéry, c'était pas le gars qui allait résoudre le problème de la faim dans le monde ou l'écologie, et que, mais par contre, il mouillait le maillot à toutes les rencontres, même quand il était pas à 100%, il se bougeait sur le terrain, etc. Donc, et si on parlait de mépris de classe, le vrai mépris de classe, à mon avis, il n'est pas forcément entre ce qui s'est passé en France et Franck Ribéry, mais c'est la façon dont lui a volé le ballon d'or en 2013. Parce que ça, c'est le fait, ça, c'est le
c'est sa grande blessure, effectivement. Alors que, évidemment, alors qu'il est champion d'Allemagne, il gagne Ligue des Champions.
Il gagne tout.
Il est joueur de l'année par l'UEFA, ouais. Désigné joueur de l'année par l'UEFA également.
Exactement. Et ça, c'est, je pense que c'est une blessure pour lui, parce que ça revient maintenant. Mais quand tu fais l'analyse, moi, je me rappelle à l'époque, j'avais écrit beaucoup sur cette affaire-là parce que ça me touchait par rapport à mes convictions. C'est le gars qui est pas le meilleur de la classe, mais cette année-là, il est numéro un. Parce que Cristiano Ronaldo, il commence à se mettre à fumer, il commence à regarder les filles, etc. Je me rappelle, on avait parlé avec Fred à l'époque. Et en fait, on lui dit, bah non, tu comprends, t'es mal né, toi. Hein, Cristiano Ronaldo, c'est un fils d'avocat, il va aller dans les grandes écoles. Donc on va lui donner le ballon d'or. Et comme par hasard, le journaliste lui avait donné le titre du meilleur joueur de l'année en Allemagne. Et c'est comme si t'avais la maîtresse un peu 68arde sur les bords, qui comprenait ce qui vient de se passer, qui lui filait une boîte de chocolat, quoi. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé en 2013. Donc le vrai mépris de classe, il est même pas, j'ai envie de dire, sur l'incompréhension, parce qu'avec Willy, on pourra en parler longtemps. Moi, j'ai d'autres échos, notamment d'anciens joueurs de l'équipe de France qui n'ont pas forcément eu le même rapport avec Franck Ribéry, au point de vue positif, je veux dire. Mais le vrai mépris de classe, c'est le fait qu'on lui a enlevé, pour moi, le ballon d'or 2013.
Willy, c'est vrai qu'il a dit et redit, hein, Franck Ribéry, hein, il a vécu comme une injustice de ne pas être désigné ballon d'or en 2013. Parle-moi du joueur que tu as connu en équipe de France également. Il fait partie des meilleurs coéquipiers que tu as pu croiser dans ta carrière.
Ouais.
T'en as croisé un paquet, hein, évidemment.
J'ai eu de la chance de jouer avec des joueurs extraordinaires à côté de moi, et c'est un vrai privilège. Franck, je l'ai surtout connu au début de son aventure avec l'équipe de France pendant 2 ans. Je l'ai connu deux ans au Bayern avant que mon corps dise stop. Donc je l'ai plus côtoyé au début. Après, c'est toujours pareil. Franck, pourquoi aussi à un moment donné il a peut-être eu des relations peut-être conflictuelles avec d'autres joueurs, ou parce que Franck, à un moment donné, on a voulu lui filer entre guillemets le leadership, notamment en équipe de France. Mais Franck, c'était un leader technique sur le terrain, si vous vouliez, mais dans la vie, Franck, c'est pas un leader, c'est le super camarade qui va faire plein de blagues, qui va
c'est un ambianceur aussi, c'est
voilà,
ça.
Qui va remonter le moral aux autres, qui va faire plein de choses positives. Mais être leader dans un effectif, il faut autre chose, et c'est plus attrait à des caractères plutôt qu'à des qualités ou des compétences. Et lui, dans son caractère, c'était plus voilà le feu follet, le mec un peu le comme disaient les Anglais, le free spirit, un peu de la classe. Après, je reviens sur ce que Fred disait, notamment sur le ballon d'or. De toute façon, Franck fait partie de la longue liste des joueurs qui auraient dû l'avoir et qui ne l'ont jamais eu. Il faudrait peut-être quand même qu'un jour on se pose la question de savoir pourquoi ça existe encore, cette récompense individuelle dans un monde collectif.
Enfin, ouais, d'accord, Winnie.
C'est ridicule. Mais bref, il faut pas que ces choses-là, d'avoir eu un ballon d'or ou pas un ballon d'or, faut pas que ça reste une cicatrice pour lui. Faut pas que ça reste un mauvais moment parce que c'est pas forcément un reflet de la réalité. Tout le monde sait qu'en 2013, de toute façon, le meilleur joueur en Europe, c'était Franck Ribéry, point à la ligne.
À l'époque, c'était encore FIFA Ballon d'Or, donc il y avait... Ouais. Il n'y avait pas que les journalistes qui regardent les matchs, eux qui voyaient le truc, il y avait les capitaines, les sélectionneurs, ouais. Et tout ça. Donc il y avait un peu... que le vote, il était un peu parfois bling-bling, on va dire. Il en avait souffert, bien sûr.
Mais c'est normal qu'il en ait souffert, parce que je pense qu'il en avait fait un objectif. Après, voilà, ça reste quand même un joueur, comme tu as dit, surtout Bayern, qui a eu une immense carrière et qui a Munich comme plein d'anciens avant lui. Quand il y revient, ben, il y aura toujours les bras grands ouverts.
Comme toi, hein, quand tu reviendras en France après ta magnifique aventure qui est loin d'être terminée, j'imagine, en Géorgie, où tu es devenu une icône, Willy. J'exagère à peine. Ça fait un an que tu es invaincu avec la sélection de Géorgie. Tu es arrivé il y a un an et demi en février 2021. Tu fais monter la sélection en Ligue B de Ligue des Nations. Tu vas jouer les qualifs pour l'Euro avec l'Espagne dans ton groupe.
Que tu avais fait souffrir l'Espagne.
Oui, oui.
Hein.
Oui.
Moi, je me souviens du match.
Ouais, le match aller, parce que le match retour, on n'a pas fait souffrir.
Non, le match aller, l'Espagne marqué à la dernière minute, je me souviens bien.
C'est ça.
L'Espagne, l'Écosse, la Norvège, d'Allande et Chypre. Alors, une question, je dirais, studio pour toi, de Farid qui nous dit, c'est un plaisir d'entendre Willy sur RMC. Une question, et pardonne mon ignorance par avance. Quel sera ton objectif en 2024 avec la Géorgie et en quelle langue échanges-tu avec tes joueurs?
Alors déjà, pour la langue, c'est bien, c'est un mélange. Voilà, c'est un peu d'anglais, un peu d'allemand pour ceux qui comprennent, un peu d'espagnol, un peu d'italien. Enfin, c'est l'avantage du foot. T'es pas toujours obligé de parler la même langue pour te comprendre. Et en même temps, il y a aussi une belle chose à ça. C'est que quand tu parles pas forcément la même langue que tes joueurs, eh ben, ça t'oblige à être beaucoup plus concis dans ce que tu dis, beaucoup plus rapide. Et même toi, en tant qu'entraîneur, tu recherches aussi l'efficacité dans tes mots. Donc ça, c'est une bonne chose. Et après, par rapport aux objectifs, oui, ça fait un an qu'on est invaincu, on a gagné presque 20 places au classement FIFA, ce qui est la plus grosse progression européenne sûre sur la dernière année. Mais on sait quand même qui on est, on sait quand même d'où on vient. On a encore beaucoup de travail à faire. J'ai pu pendant cette année rajeunir énormément l'effectif. Avec beaucoup de joueurs, notamment de la génération 2001, qui est une belle génération. Et même pour vous donner un exemple, c'est le prochain championnat d'Europe, il va espoir. Donc il se passera l'été 2023. Il est organisé par la Géorgie et par la Roumanie, tous les deux. Et moi, dans mon effectif, j'ai 9 joueurs qui peuvent encore jouer le championnat d'Europe. Donc voilà, c'est un groupe jeune, mais qui doit encore apprendre. Et sur les objectifs de 2024. C'est impossible à dire, on était dans le chapeau 4. Alors peut-être on peut se dire l'Écosse, elle est peut-être touchable, mais l'Espagne sur la durée et la Norvège sur la durée, ça va être compliqué.
Bon, il y a Chypre après, aussi, effectivement.
Oui, après, oui, mais bon, c'est Chypre non plus, c'est pas mauvais. Ils ont battu la Grèce, donc dans la Nations League, donc ça reste un groupe difficile. Mais après nous, le fait justement de par notre parcours en Nations League, on a gagné le droit de jouer, vous savez, les fameux playoffs que la Nations League donne.
Des barrages, ouais.
Voilà. Et donc, on sait déjà que nous, on sera dans ces playoffs. On sait que le premier playoff, on le jouera à domicile, certainement contre le Kazakhstan. Et après, on jouera une finale contre une autre équipe, peut-être la Turquie, peut-être la Grèce, ce genre d'équipe, pour se qualifier directement pour le championnat d'Europe. Donc, je dirais que notre objectif, nous, à long terme, il est surtout via ces playoffs.
Willy, c'est un plaisir de t'écouter à nouveau sur RMC. Hein. Tu sais que t'es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. On reparlera de la Géorgie, ton travail à Tbilissi notamment. Et puis on espère te voir à l'Euro 2024 dans un pays que tu connais bien en plus. Merci Willy.
Merci à vous, Willy. Bonne soirée à toi, les gars.
Dans un instant, on va reparler de Franck Ribéry. Petite histoire du foot, hein, où vous le placez, les gars, dans le top 5, top 10 des joueurs français qui sont mieux exportés à l'étranger notamment. Il y a beaucoup de listes déjà sur Direct Studio. C'est un débat qui va être passionnant dans un instant sur RMC. D'abord le direct, la Ligue 2, la fin de la 11e journée avec Sochaux Saint-Etienne, Sébastien Ruffet.
Eh ben Nico, tu arrives pile à la mi-temps de cette rencontre de la 11e journée entre Sochaux et Saint-Etienne. Match très âpre, très accroché, mais c'est Sochaux qui mène au score 1-0 grâce à un but marqué en tout début de partie sur le premier corner par Agouzoul. Sochaux qui pour l'instant se rapproche de la tête du classement dans un match, encore une fois je vous dis, qui se durcit au fil des minutes.
Allez, restez avec nous, Génération After se poursuit avec Fred Hermel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Johan Crochet sur RMC 21h34, à tout de suite.